ces jours-ci, ou plutôt ces nuits-ci, l'ouvrage qui m'accompagne au moment d'aller au lit s'intitule « Quelques-unes des vies et des morts de Benjamin P. » et il est signé Dominique Grezard. Il faut savoir que Dominique Grezard est aussi le patron des éditions Le Bavénicien, et il est avec nous par téléphone pour nous parler à la fois de sa maison d'édition, mais aussi et surtout de cette suite romanesque, puisque ce n'est pas un recueil de nouvelles, mais c'est construit un petit peu comme ça, comme un recueil de nouvelles articulé autour d'un roman. Alors, Dominique Grezard, bonjour.
Bonjour Rémi.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Ça va bien, merci. D'abord, un mot sur les éditions Le Bavénicien que vous avez monté assez récemment. C'est assez neuf comme maison d'édition.
Si vous m'autorisez tout de même, avant de parler de ça, j'aurais tout de même une pensée émue pour les victimes de Montauban et de Toulouse et pour leurs proches. Alors, Le Bavénicien, c'est une maison d'édition qu'on a montée, c'est une coopérative qu'on a montée en avril 2010, donc ça va faire bientôt 2 ans, et qui a commencé à publier en janvier 2011, et depuis janvier 2011, on est au 11e bouquin avec celui-ci. Voilà.
Donc, l'idée, la ligne éditoriale de la maison d'édition, qu'est-ce que c'est ?
La ligne éditoriale, c'est beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être bref. C'est en premier lieu l'humanisme, c'est en second lieu la découverte de talents, découverte de gens qui sont pas dans des cases, dans des tiroirs tels qui puissent être reconnus facilement par l'édition traditionnelle. On a trouvé qu'il y avait un trou là-dessus. C'est ensuite des attentions particulières accordées à la mémoire, à l'oralité. Voilà, si je donne en quelques mots l'orientation des éditions.
Voilà, on vous avait découvert, nous, sur CFM Radio, par l'intermédiaire de l'ouvrage Virage dangereux d'Annick Demouzon, avez un ouvrage de nouvelles que vous avez édité en 2010.
En 2011, en septembre 2011, et dont on vient d'apprendre qu'il fait partie des 5 recueils de nouvelles sélectionnés pour le prix du festival de Lozère.
Voilà,
près de chez vous.
Place aux nouvelles. Voilà,
place aux nouvelles, exactement. Voilà, tout à fait, place aux nouvelles.
Alors, parlons de quelques-unes des vies et des morts de Benjamin P. C'est l'ouvrage qui sort ce mois-ci, des
éditions. Sort, si je me souviens bien, vendredi, jeudi ou vendredi.
Voilà, donc j'ai eu le plaisir de pouvoir le lire un peu avant tout le monde. Alors, vous ne l'annoncez pas comme un recueil de nouvelles, mais bien comme une suite romanesque.
Non.
Voilà. Et pourtant, c'est effectivement plein de petites histoires comme ça, mais qui se tiennent les unes aux autres, quoi.
Alors voilà, on peut penser à un recueil de nouvelles parce qu'il y a 17, donc non pas nouvelles, mais séquences qui peuvent se lire de façon autonome. Mais ces 17 séquences forment bien une trame romanesque. Alors pas seulement parce que c'est le même personnage qui en est le héros, et pas seulement lui, mais les femmes qui l'entourent. Mais aussi parce que il y a des correspondances entre les nouvelles, il y a une progression romanesque, parce que il y a des échos d'une séquence dans l'autre.
Voilà, alors Benjamin P. vit le jour, vit la nuit, et c'est pas les mêmes vies qu'il vit le jour et la nuit. On fait juste une courte page de pub, et puis on rentre dans le vif du sujet dans un instant.
CFM à Montauban, 101.2, 101.2.
À quel tour la suite avec Dominique Grezard, auteur de quelques-unes des vies et des morts de Benjamin P. Alors voilà, je disais juste avant la coupure pub, Dominique Grezard, qu'il avait plein de vies, et la nuit et le jour, et que c'était pas les mêmes, mais finalement ces vies rentrent en interaction les unes avec les autres un petit peu.
Exactement.
Quand même,
Exactement. Alors le jour, il a la vie que nous connaissons, la vie de tout le monde. Voilà, c'est une vie qui est suivie un petit peu sur l'ensemble de la suite romanesque, donc. Et puis la nuit, ce gars-là a une chance extraordinaire. Il vit d'autres vies que la sienne. Alors évidemment, il y a une interprétation facile. Oui, d'accord, il rêve. Il rêve toutes les nuits d'autres vies que la sienne. Et lui, il est persuadé du contraire. Lui, il sait. Oui, croit, c'est à vous de choisir, il vit réellement ses autres vies, et qu'en fait il vit toutes les vies qu'il aurait pu vivre, toutes les vies vers lesquelles il aurait pu se diriger si la vie en avait décidé autrement.
Oui, d'ailleurs, personne n'ose en parler avec lui. Hein. C'est un fait établi. Il n'en parle plus. Sa mère ne l'embête pas avec ça. Sa compagne non plus.
Il a ramassé deux fois et après, il a pris le parti de ne jamais parler de ses vies nocturnes dans sa vie diurne.
Alors, c'est des vides, parfois des morts même. Ouais. Il va même se retrouver parfois à devenir un tueur. Parfois il va mourir. Parfois, il sera un enfant. Enfin, vraiment. Vous avez là exploré quoi vos propres fantasmes, Dominique Grezard?
Alors ça, c'est une vraie question. Je veux dire, sur les fantasmes, oui, ça m'a quand même permis d'en réaliser deux. Le premier, c'est d'être l'homme dans les bras duquel toutes les femmes tombent. Alors ça, c'est quand même un fantasme que tout le monde voudrait vivre. Je suis comme tout le monde, voilà. Je m'en suis débarrassé dans le livre, moi. Et puis un deuxième fantasme, c'est que si j'avais pas créé avec beaucoup de gens très bien cette maison d'édition, j'aurais peut-être ouvert le restaurant qui apparaît dans la 15e ou la 16e séquence, je sais plus, qui s'appelle Des piments et des mangues. C'est quelque chose qui m'a travaillé pendant longtemps. Alors donc évidemment, c'était une vie qui était assez facile à écrire parce que tout était écrit d'avance.
Oui,
alors... je l'ai pas fait. Je me suis débarrassé aussi de ce fantasme-là.
Et puis à Benjamin P, ça lui permet de continuer d'avancer dans la vie parce qu'il aurait un petit peu tendance à être un peu finalement avoir un peu je sais pas de tendance un peu à la nostalgie ou à la tristesse ou à des choses un peu comme ça. Hein.
Il y a des nouvelles qui sont franchement tristes ou dures. Hein. Vous avez parlé du serial killer, c'est une chose épouvantable. Mais moi, c'est quelque chose qui me travaille. C'est pourquoi est-ce qu'on a basculé, j'espère vous et moi, du côté d'honnête citoyen, et pourquoi un autre type a basculé pour devenir le tueur des vieilles dames. Est-ce que on est profondément différent de lui? On peut dire que oui, mais d'un autre côté, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de nazis en Allemagne et de SS en Allemagne en 1940. Hein. Donc là, on se pose plus de questions sur le fait que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auraient été dans une autre période.
Voilà. Vous explorez.
Il y a aussi des nouvelles très très gays. Enfin,
oui,
j'espère qu'il y a des nouvelles
très
gays et drôles.
Tout à fait. Puis, alors, il y a des nouvelles gays, il y a des nouvelles drôles, des nouvelles qui font réfléchir aussi. Hein, à un moment, il se rend compte que dans une de ses vies, la femme qu'il aime, avec qui il est marié, c'est sa sœur jumelle.
Voilà.
Donc, ça pose aussi des questions un peu existentielles, comme ça, au passage.
Oui. Alors, bon, ça, pour l'anecdote, c'est une histoire vraie. Alors, c'est pas à moi qu'elle est arrivée, mais c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques années, effectivement. En faisant un test ADN pour un examen prénatal, je crois, on s'est rendu compte que un couple était en fait des jumeaux qui avaient été séparés par la vie, voilà. Et voilà, ça pose des tas de questions. Et je pense qu'il y a d'autres nouvelles qui posent beaucoup de questions, et c'est un petit peu ça qui m'intéressait dans cette histoire.
Et puis, donc il y a une interaction avec sa vraie vie entre guillemets, c'est-à-dire que des choses qu'il vit la nuit dans ses rêves ou dans ses vies de nocturne, on va dire, il les retrouve par interaction dans sa vie de tous les jours, un peu de prémonition peut-être, des choses comme ça. Hein.
Alors là, il y a des rapports, enfin, pour tout vous dire, ce livre a été monté sur un fichier Excel pour essayer de voir un peu les relations, vous voyez que ça pouvait être compliqué, non pas à lire, parce que je pense qu'après, enfin, l'objectif, c'est au contraire que ça se lise de façon fluide, mais à monter pour que les dates s'enchaînent, qu'elles soient possibles, pour que justement ces interactions fonctionnent correctement, voilà, et pour que à chaque fois, il y a un rapport différent entre la vie nocturne et la vie diurne. Alors ça peut être la prémonition, ça peut être il a vécu une autre vie peut-être parmi tant de psychoses, on ne sait rien. Ça peut être et s'il était noir, qu'est-ce qu'il aurait vécu? Et si les rapports étaient inversés dans l'immigration entre noir et blanc, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, voilà. Donc il y a des tas de relations différentes. Et aussi, non, faut pas déflorer la fin, mais je veux dire que la fin, il y a une grosse interaction entre la vie diurne plus exactement entre la vie nocturne et la vie diurne.
Ouais, bon, on n'ira pas jusqu'à dévoiler la fin. Vous dites 8457 vies et quelques morts.
Voilà, alors quelques morts, je crois qu'il y en a 2, 3, 4 de raconter, je sais plus. Mais 8457 correspond en fait au nombre de vies nocturnes qu'il vit. Il rêve, pardon, il vit, oh là là, j'ai dit une grosse bêtise.
Alors.
Il vit toutes les nuits une vie différente entre son 9e et son 36e anniversaire. Sauf le mardi, où là, il dort et il ne vit pas d'autre vie.
Voilà, et puis c'est un peu, on va dire, moi j'ai trouvé ça plaisant parce que c'est un peu le rêve de tout le monde de pouvoir au moins se rappeler de ses rêves déjà, première chose, et puis des fois que ses rêves aient tout simplement une cohérence et un fil conducteur. Et là, c'est vrai que... voilà,
ça... Alors, bon, j'espère que c'est plaisant en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Enfin, moins quand c'est le serial killer, c'est bien clair, plus quand c'est le
tondeur. Ah ouais, je vais vous dire, la nouvelle sur le serial killer, elle m'a un petit peu embêté, quoi. Je me suis dit,
mais elle fait mal à tout le monde.
Elle est
insupportable. Et mon éditeur, en l'occurrence, souhaitait que je l'enlève, et j'ai tenu bon. J'ai fait beaucoup de modifications qui étaient demandées par l'éditeur, mais j'ai tenu bon là-dessus parce que je tenais à poser cette question du rasoir, enfin de quel côté on tombe et pourquoi. Voilà. Alors le côté plaisant, j'y compte, je l'espère, mais derrière il y a tout de même, enfin c'est quand même un livre avant tout sur le potentiel, c'est-à-dire sur toutes ces vies qu'on aurait pu vivre, sur quelque part, alors c'est pas écrit dans le livre, mais je pense qu'on se pose la question un petit peu en le lisant, est-ce que la société nous permet toujours de faire ces bons choix? Est-ce qu'en chacun de nous il n'y a pas un artiste qui sommeille, un grand musicien, un grand homme politique, j'en sais rien, un grand sportif.
Ouais, scientifique, il y a une nouvelle qui m'a beaucoup plu, qui est une des premières, où vous partez de l'hypothèse en fait que avec le monde dans lequel on vit, les ordinateurs, les écrans et l'interconnexion un peu de tout le monde, on ne va plus avoir la pensée linéaire qui nous a été apportée par l'écriture, et donc à un moment Benjamin P va devenir une sorte de grand chercheur qui va avoir trouvé quelque chose, une sorte de mutant en fait, parce que sa pensée va être complètement élastique, abstraite,
Voilà. Mais ça aussi, c'est une vraie question. C'est une question que je me suis posée tout simplement parce que je suis aussi un gros consommateur d'informatique pour diverses raisons. Et j'ai arrivé à me demander si ça modifie pas complètement ma façon de lire, par exemple, mais aussi ma façon d'écrire. Et si on n'est pas en train effectivement de muter. Alors là, en lisant la séquence dont vous parlez, c'est assez argumenté, y compris en remontant à la découverte de l'écriture en Grèce. Est-ce qu'effectivement est-ce qu'on n'est pas en train de changer complètement notre façon de penser et de revenir à une forme de pensée beaucoup plus touche-à-tout, beaucoup plus
fragmentée,
puzzlienne, si j'ose dire, que l'écriture qui nous a appris quelque part à envisager les choses de façon totalement linéaire, avec un début, un milieu, une fin, etc. Voilà. Et voilà, le drame, c'est que ce pauvre Benjamin, qui effectivement devient un chercheur de génie parce qu'il trouve la solution d'un problème qui est totalement improbable, mais il peut même pas la communiquer. Il peut même pas la communiquer. Il faut dire aussi que c'est une séquence qui se passe dans le futur, qui se passe dans 122 ans. Alors il y a quelque chose d'assez cocasse entre l'époque d'aujourd'hui où il revient et il essaie de se souvenir de cette vie dans 122 ans. Mais même dans 122 ans, il peut communiquer à personne ce qu'il a découvert, parce que personne ne peut le suivre sur cette pensée-là.
Ah, et dans le même esprit, il y en a une qui est aussi très drôle, qui m'a fait beaucoup rire, sur les pronoms amatifs.
Les pronoms amatifs.
Oui, c'est les pronoms amatifs. Voilà. Donc, il fait toute une thèse sur quelque chose qui n'existe pas.
Voilà. Et dans la vie qu'il vit la nuit, effectivement, cette thèse est produite et ça se passe en 1968 avec l'intervention de personnages historiques. Et effectivement, ça débouche sur quasiment une crise gouvernementale, voire mondiale, parce que on invente les pronoms amatifs. Sauf que quand il fait des recherches 30 ans plus tard, il ne trouve pas trace de ça et qu'il est très embêté. Alors, le pronom amatif, il faut dire ce que c'est quand même. On ne peut pas, enfin vous vous rendez compte, c'est un scandale, on peut quand même pas parler d'amour avec des pronoms possessifs.
Oui.
L'amour et la possession, c'est complètement antinomique. Et l'idée des pronoms amatifs est partie de là, et c'est la toute première séquence qui a été écrite.
Voilà, parce que donc vous dites, on ne peut pas forcément dire tout le temps mon chéri, ma femme, mon amour. Donc vous inventez des pronoms, sur une base que j'ai pas toujours tout compris. Mais on remplace ce mon par autre chose. Hein. Par quoi vous le remplacez, par exemple?
Je n'ai pas forcément dans la tête, parce qu'en plus, ça a changé ça avec mon éditeur, qui m'a dit on peut trouver quelque chose de plus marrant, etc. ça doit être Zora copine, Zora
oui,
mère,
voilà.
On va tout autant de la personne, hein, voilà.
Voilà, bon, et ben voilà, il y a toutes ces vies et ces morts, donc quelques-unes des vies et des morts de Benjamin P. Ça sort au Bavénicien là ces jours-ci, vous me dites quand
Je crois que c'est jeudi ou vendredi, voilà.
Voilà, et puis alors je voulais vous féliciter sur la qualité de l'objet. Moi j'aime bien tenir vos livres dans les mains, d'une couleur bleu nuit, enfin pas bleu nuit, bleu, c'est hyper...
Un bleu, c'est pas tout à fait nuit, mais j'ai pas le terme dans la tête.
C'est un joli bleu, c'est un joli bleu, voilà, moi j'aime bien. C'est le format et la couverture comme ça, voilà, j'aime bien, très sympa.
Voilà.
Merci.
Merci Rémi, je vous souhaite beaucoup de très belles vies et très peu de morts.
Oui, pareillement. Merci Dominique Grosard.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.